Vous écoutez France Culture.
Le Monde selon Hubert Védrine, comme chaque vendredi. Bonjour Hubert Védrine.
Bonjour.
Alors les dirigeants européens ont ouvert hier leur sommet à Ypres, en Belgique, où ils ont participé à une cérémonie du centenaire de la Première Guerre mondiale, avant d'entamer à leur tour les hostilités sur le futur président de la Commission européenne. Vous savez que le Premier ministre David Cameron a tout fait depuis les élections du 25 mai pour éviter que le démocrate chrétien Jean-Claude Juncker ne soit nommé, mais tout cela sans succès. Alors hier, la chancelière allemande, Angela Merkel, lui a tendu la main à la veille de la défaite qu'il se prépare à encaisser. Et elle lui a dit « Nous devons faire en sorte de trouver un large terrain d'entente sur le contenu des politiques européennes », a donc affirmé Madame Merkel. Dit Hubert Védrine, une fois de plus, cela ne se dément pas, il y a un leadership clair et net allemand en Europe. On peut se poser la question, non ?
Oui, on peut se poser la question, mais la réponse n'est pas univoque. Je pense que c'est à la fois vrai et faux. Qu'il y ait une prédominance économique allemande ces dernières années, notamment grâce aux réformes qui ont été faites sous Gerhard Schröder et dont Mme Merkel bénéficie, enfin l'Allemagne en général, c'est vrai. Mais d'abord, ce poids économique allemand, c'est ancien. Déjà dans les années 80, avant la réunification allemande, il y avait un poids économique allemand tel qu'on constatait qu'on était de facto dans une sorte de zone marque. Et quand la France avait besoin de dévaluer régulièrement à l'époque, il fallait qu'elle demande, qu'elle supplie le gouverneur de la Banque centrale allemande pour savoir quel était le pourcentage qu'elle pouvait dévaluer. Il y avait une force allemande, de même que la position économique allemande très forte en Europe de l'Est sur le plan de l'exportation. Et ça remonte quasiment au Moyen-Âge. Donc il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas entièrement nouveaux. Et puis ça s'est vu encore plus nettement dans les dernières années. Mais pourquoi je dis que ce n'est pas entièrement vrai? Si vous prenez leadership, ça veut dire capacité d'entraînement. Capacité d'entraînement allemand sur, par exemple, la politique de Poutine, très faible. Au début de la crise ukrainienne, Mme Merkel avait proposé un groupe de contact, un dialogue direct, et pour une fois, Poutine avait négligé cette proposition allemande. Il suivait une autre piste. Donc, dans l'affaire de la crise ukrainienne, elle n'a pas marqué spécialement. Le ministre Steinmeier a été au début avec Laurent Fabius et Sikorski, mais cette approche européenne intelligente d'ailleurs, n'a pas directement pesé. Peut-être qu'elle a reconstitution maintenant d'une approche européenne franco-allemande, peut-être, mais ça, ce n'est pas du leadership allemand. La position allemande dans l'affaire de l'Iran, qui est extrêmement importante, elle est comme celle des autres occidentaux, il n'y a pas d'originalité, ils ne sont pas spécialement leaders. Dans l'affaire du Proche-Orient, Israël-Palestine, ils sont inexistants, puisqu'ils sont auto-paralysés par leur passé et des exigences du Likoud. Sur le plan des interventions militaires à l'extérieur, ils sont également auto-paralysés. Ils ne sont pas contre ce que la France fait quand la France est réclamée, demandée par les Africains, par le Conseil de sécurité. Enfin, ils n'ont pas de poids direct et ils sont d'ailleurs évidemment toujours pas au Conseil de sécurité. Il faudrait l'accord de tous les membres pour réformer le Conseil. Dans l'affaire de Juncker, dont vous parliez là, la domination probable aujourd'hui assurée de M. Juncker comme président de la Commission, Mme Merkel ne voulait pas de ce scénario en fait. Pendant des mois, elle a montré qu'elle était réticente, voire hostile à cette espèce de semi-putsch fait par le Parlement européen, qui interprète le traité de façon abusive, comme si c'était à lui, mécaniquement, automatiquement, de désigner le président de la Commission, comme s'il y avait une sorte de 4e République française d'autrefois à l'échelle de l'Europe. Elle a défendu pendant des mois le fait que le Conseil européen avait des prérogatives, il pouvait choisir en tenant compte d'eux, c'est le traité, ça. Elle avait d'ailleurs pensé à Mme Lagarde, dit-on, voire à Michel Barnier, mais bon, l'ensemble des partis conservateurs avaient choisi Juncker. Elle a eu la main forcée, après elle en a fait sa politique à elle. Et maintenant, sa ligne à elle, c'est d'aider Cameron à ne pas sortir, en quelque sorte. Donc on va voir comment elle va jouer sa carte dans les compensations qui vont être données à M. Cameron après son échec d'aujourd'hui.
Il ne faut pas humilier l'Angleterre.
Oui, parce qu'elle ne veut pas que l'Angleterre sorte, en réalité. Donc elle va chercher avec Cameron un accord sur le contenu de la politique, ce qui fait qu'elle ne sera pas sur la même ligne que les demandes de M. Renzi et de François Hollande. On va voir. Mais c'est plutôt du compromis normal, disons, où elle défend ses intérêts. Dans l'affaire de l'énergie, où elle avait pris ce changement de cap pour des raisons de pure politique intérieure, parce qu'elle a toujours été pour l'énergie nucléaire, qui, notamment à cause du CO2, elle a fait ça pour des raisons de politique intérieure. Ça démontre d'ailleurs qu'on ne peut pas à la fois et en même temps sortir du nucléaire et diminuer le CO2. C'est exactement l'inverse qui se produit en dépit des slogans politiques. Bon, elle n'a pas tellement entraîné les autres par rapport à ça. Il y a eu des réactions par rapport au nucléaire, mais ça n'a pas empêché que le nucléaire dans le monde continue, globalement, et même au Japon. Donc je ne trouve pas qu'il y ait la démonstration d'une capacité de leadership qui amènerait les autres à suivre une ligne allemande, tellement son poids serait fort. Vous voyez, en tout cas, en politique, sur le plan stratégique, sur le plan militaire, sur le plan de défense européenne, c'est inexistant.
Est-ce que ça ne vient pas du fait que finalement, on confond peut-être le poids économique qui se substituerait au poids politique ?
Exactement. Exactement. Vous me soufflez vous devancez ma conclusion, bien sûr. C'est évidemment le cas. Il n'y a pas un véritable leadership. J'ajouterai un autre élément, c'est que l'Allemagne est manifestement gênée d'apparaître trop forte, trop dominante. Au début de la crise des dettes souveraines et de l'affaire grecque, on voyait que Mme Merkel était tellement gênée que l'Allemagne apparaît au premier plan avec une capacité, en effet, de dire oui ou non en matière de gestion de la zone euro, dès lors qu'il y a des garanties à apporter, ça la gênait. Donc elle avait même ressuscité artificiellement le, entre guillemets, couple franco-allemand avec Nicolas Sarkozy à l'époque pour ça, pour ne pas apparaître seule. Donc le résultat, c'est qu'on a affaire à une prédominance économique. Je le répète, grâce aux réformes de Gerhard Schröder, celles que la France ne se résigne pas à faire, parce que c'est quand même dur, une compétitivité allemande remarquable en matière de coûts, donc grâce à ça, mais aussi en matière de qualité. La qualité allemande, ce n'est pas une invention, et ce n'est pas vrai que pour les Mercedes et les Audi, c'est vrai pour n'importe quel taille-crayon ou tournevis. Hein. Bon, il y a une qualité ancienne extraordinaire sur tous les produits industriels. Il y a une culture industrielle qui est restée très forte, renforcée par une politique d'apprentissage ancienne. Donc, le vrai problème, c'est le risque de déclassement français sur le plan économique. Et c'est ça qui apparaît comme en creux et par défaut comme un leadership. Mais la France retrouvera un poids économique, diplomatique, etc., considérable quand elle aura fait les réformes en question. Donc, c'est plutôt ça qu'un véritable leadership, au sens où on a pu en parler pour les États-Unis à certains moments. C'est autre chose, me semble-t-il.